Alors, bonjour Bernard Friot. Donc, on sort d'une conférence passionnante avec vous, qu'on peut voir sur les films de l'an 2, c'est un site internet. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement?
Ben, je suis donc économiste de formation. J'ai été enseignant en économie à l'Université de Lorraine pendant une trentaine d'années. Et puis en 2001, j'ai été élu en sociologie à Nanterre. J'avais passé en 2000 une habilitation à diriger des recherches en sociologie. Et donc j'ai été élu comme prof de sociologie du travail à Nanterre, où j'ai terminé ma carrière donc, au cours des années 2000. Étant entendu que mon passage d'économie à la sociologie n'a pas changé mon objet, hein, qui est la sécurité sociale, le salaire, ni mes méthodes, qui sont une approche essentiellement empirique du terrain. Mais précisément en économie, j'étais de moins en moins à l'aise. Je n'avais pas la formation en mathématiques maintenant requise. Et puis surtout, je m'ennuyais mortellement, donc je n'ai pas... pas continuer.
Alors, quel est votre principal objectif politique ?
Ah, politique, carrément. Attendez, moi, je suis un universitaire montain. Mon principal objectif politique, au sens alors large du terme, bah, c'est d'être un chercheur en sciences sociales, à mon avis, digne de ce nom, c'est-à-dire d'épier l'émancipation dans une dynamique sociale. Je pense que un chercheur a la responsabilité d'analyser les moments, les chemins où il y a une émancipation.
D'accord. À l'aune des intérêts de quel groupe jugez-vous économique?
Ah bah précisément de ceux qui sont dominés, mais je ne les définirais pas simplement comme dominés. Ils sont dominés et en même temps non seulement en résistance à la domination, mais en construction d'une alternative à la... Alors, mon objet, c'est la pratique du travail, à la pratique capitaliste du travail. Donc, c'est les militants, on va dire, qui sont mon point de vue ce que j'observe. Oui.
D'accord. Alors, quels principaux principes politiques?
Donc, j'ai prononcé le mot émancipation. Nous sommes confrontés quand même à une impuissance sur notre capacité collective à déterminer ce sur quoi nous travaillons. Il y a une classe dirigeante qui décide de ce sur quoi va porter notre travail, ce que nous allons produire, où, comment. Et cette non-maîtrise du travail est pour moi inadmissible. C'est donc ce que je cherche à, encore une fois, à épier comme chercheur, c'est comment ceux qui sont victimes de la définition par un autre de ce qu'est la valeur économique, de sa mesure, de la façon de la produire, s'organisent pour, par un conflit séculaire, c'est pas une question de grand soir, s'émanciper de la violence inhérente à la définition capitaliste du travail.
Alors, que pensez-vous de la création monétaire par le don ? Parce qu'actuellement, la seule façon de créer de la monnaie, c'est par la dette. Pour imaginer qu'on crée de la monnaie et qu'on la donne, par exemple, à ceux qui en ont besoin ou qu'on la donne uniformément à tout le monde, plutôt que de la prêter.
Alors, donc, comme j'ai insisté cet après-midi au séminaire Marx au XXIe siècle, auquel m'invitait Jean Salem, j'ai montré, j'espère en tout cas, j'ai insisté sur le fait que le crédit est une institution spécifiquement capitaliste et que ce n'est pas du tout naturel de financer la monnaie par crédit et donc que la création monétaire par crédit des banques, lorsque quelqu'un veut financer un investissement, n'a strictement rien de naturel. Alors, cela dit, pour moi, la création monétaire, elle est forcément liée à un investissement, parce que on crée de la monnaie en anticipant une valeur supplémentaire qui va être produite. Et cette production de valeur supplémentaire suppose un outil de travail, suppose des éléments sur lesquels va s'appliquer le travail vivant, qui lui est producteur de valeur, bien sûr, le seul producteur de valeur. Donc moi, lorsque je réfléchis à la création monétaire, c'est essentiellement à l'occasion de l'investissement. Mais pas pour distribuer de la monnaie comme ça à la population.
Par contre, vous seriez favorable si on crée de la monnaie et qu'on la donnait à des projets d'investissement?
Ah oui, bien sûr. Hein, dans Émanciper le travail, dans le troisième entretien qui est sur quel avenir possible ouvert par les institutions de la pratique du travail telle que la sécurité sociale, la fonction publique, enfin tout ce qui se construit en 1945 les met en place. J'aborde la situation suivante, que je peux très brièvement expliciter. Si l'investissement est financé par l'affectation d'une partie du PIB à l'entretien ou à la création de nouveaux outils de travail, tout le PIB ne va pas à la consommation finale, une partie va à l'entretien de l'outil de travail ou à sa production. Cette partie du PIB, cette portion de la valeur, donc actuellement on consacre 20% de la valeur à l'investissement, 400 milliards sur les 800, sur les 2000 milliards, cette portion de la valeur affectée à l'investissement, si on ne veut pas qu'elle soit le fait de prêteurs capitalistes, hein, que ce ne soit pas sur les marchés financiers qu'on aille chercher cet investissement, mais que ce soit par affectation d'une partie de ce que nous sommes en train de produire, bien sûr, et dont nous avons la maîtrise. Donc ce que je propose, c'est que les entreprises qui seront la copropriété d'usage de leurs salariés affectent, par exemple, 30% de la valeur ajoutée à l'investissement, hein, parce que les 20% actuels sont insuffisants, nous n'investissons pas suffisamment, mais on peut investir 30% de la valeur ajoutée, 15% sous forme d'une valeur ajoutée qui reste dans l'entreprise et qui donc soit de l'autofinancement, décidé par les copropriétaires que seront les salariés, et puis que 15% ait une cotisation économique qui ira à des caisses qui vont subventionner l'investissement. Effectivement, on va collecter 300 milliards qui s'ajouteront aux 300 milliards de l'autofinancement. 30% du PIB, ça fait 600 milliards en tout, pour un PIB de 2000 milliards. Ces caisses vont disposer de 300 milliards qu'elles vont distribuer sans qu'il y ait remboursement, puisque bah pourquoi on rembourserait une partie du PIB que l'on est en train de créer et que l'on affecte à l'investissement. Il n'y a de remboursement que parce que cette partie-là est ponctionnée par des propriétaires sous forme de profit, hein, et qui ensuite, ces propriétaires, après avoir ponctionné une partie de la valeur que nous avons créée, nous la prêtent. Bon, ça, c'est évidemment ce que nous allons supprimer en supprimant la propriété lucrative. Et nous financerons l'investissement donc subventionnement opéré par les caisses aux entreprises. Ces caisses étant gérées par les salariés eux-mêmes. Et étudiant les dossiers présentés par les entreprises. Et il est fort possible que, par exemple, les dossiers soient d'un montant, je donne un chiffre comme ça en l'air, de 500 milliards, alors que ce qui encaisse est de 300 milliards. Bon, on peut imaginer que sur les 500 milliards présentés, il y ait 100 milliards de projets sans intérêt, bon, qui soient rejetés. Mais donc que toutes ces caisses d'investissement qui vont agir à un niveau soit très territorial s'il s'agit d'investir dans une boucherie ou une boulangerie de quartier, soit à un niveau national s'il s'agit d'industries de réseau, genre SNCF ou télécom, enfin, etc. Ces caisses vont donc estimer que 400 milliards sont légitimes et que l'on peut attendre une création de valeur supplémentaires liés des 100 milliards qui manquent, puisqu'on n'a que 300 milliards en caisse. Et donc, ces caisses vont, alors non pas directement créer de la monnaie, il y aura un dispositif de banque centrale elles ne vont pas créer de la monnaie comme ça, sans régulation par une banque centrale, c'est ce que je voulais dire plutôt. Une banque centrale qui... Par exemple, les caisses d'investissement auront un compte auprès de la banque centrale, comme aujourd'hui les banques ont un compte auprès de la banque centrale pour qu'il y ait une régulation de la création monétaire des caisses. Mais donc les caisses, par exemple, vont distribuer 400 milliards d'investissements alors qu'elles n'auront que 300 milliards en caisse. Cette création monétaire sera bien donc une création sans crédit, évidemment. Oui.
Êtes-vous pour l'instauration d'un revenu maximal mondial ?
Ah, mondial, bon, ma réflexion, moi, elle porte sur l'unité politique qui aujourd'hui peut connaître une mobilisation populaire émancipatrice, c'est-à-dire la nation. Je ne vois pas pour le moment d'autres espaces politiques.
Là, je parle d'un point de vue théorique, pas d'un point de vue d'élite.
Bon, en tout cas, d'un point de vue non théorique mais pratique. Ma proposition, c'est que nous inscrivions les salaires dans une fourchette 1500-6000, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de salaire inférieur à 1500 euros par mois net, pas de salaire supérieur à 6000 euros.
Et pas de profit, enfin
pas de propriété lucrative, donc, oui, bien sûr. Hein, il n'y a pas d'autre revenu que le salaire, y compris pour les travailleurs indépendants, puisque chacun est payé à sa qualification. Ensuite, ce n'est pas sur son chiffre d'affaires que l'on se paye. Les entreprises versent des cotisations à des caisses de salaire. Et ce sont les caisses de salaire qui versent les salaires à vie. Alors, au niveau mondial, écoutez, j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à cette question.
Alors, êtes-vous pour une démocratie mondiale ?
Oui, mais je vois pourquoi être pour quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour. Oui, je ne suis pas contre... Mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est de démocratiser des nations qui aujourd'hui sont épuisées complètement dans leur système démocratique. Alors que j'insiste, elles sont le seul lieu d'une expression populaire possible parce qu'il n'y a qu'à l'échelle nationale qu'il y a des institutions de droit populaire. L'Union européenne, c'est un syndicat du capital. Il n'y a aucune prise pour une quelconque dynamique populaire à partir de l'Union européenne. Et aucune des institutions mondiales ne présente une quelconque prise pour une dynamique populaire. Donc la nation est la seule dynamique populaire. Quand je parle d'émancipation, il s'agit bien que la démocratie qui aujourd'hui est à bout de souffle tellement... La maîtrise de la valeur économique échappe à la population et donc elle vote pour rien, pour une alternance où ça, c'est toujours la même politique avec une impuissance totale sur la valeur économique produite dans le cadre national. Donc moi, ma démarche, c'est pour enrichir la citoyenneté qui aujourd'hui est confinée, je dirais, dans un espace politique délimité au Parlement, au maire, et à quelques institutions sur lesquelles je ne crache pas, enfin qui sont absolument décisives, mais qui sont encore une fois pour le moment sans pouvoir réel. Donc qu'on enrichisse la majorité, de la souveraineté sur la valeur économique. Et dans Émanciper le travail, je montre les dimensions de cet enrichissement. Hein, salaire à vie, de 18 ans à la mort, dans la fourchette 1500 civils, tout le monde a 1500 euros à 18 ans.
Est-ce que c'est possible de faire ça à l'échelle nationale, alors qu'on est dans un contexte mondialisé et que on voit historiquement que quand certains pays ont essayé d'appliquer des réformes sociales de grande ampleur, ils se sont heurtés à... ils ont dû revenir en arrière parce qu'il y avait la pression des marchés, des capitaux qui se sont envolés.
Bon, alors l'envol des capitaux n'a pas aucune importance, puisque les gens qui s'envoleront avec des bouts de papier sans valeur, puisque nous allons entrer dans une copropriété d'usage, hein, c'est-à-dire qui ne donne lieu à aucun revenu de tout l'outil de travail. Donc c'est ceux qui seront sur ces outils dans le territoire politique considéré qui maîtriseront cette affaire. L'envol des capitaux, on n'a rien à foutre, au contraire, qu'ils s'en aillent.
Quand on dit envol des capitaux, ça veut aussi dire un manque de coopération, pour ne pas dire.
Alors voilà, c'est tout à fait important. Alors, moi je pense que la question ne se pose pas dans l'abstrait, parce que de toute façon, un peuple qui serait dans une dynamique de conquête de la souveraineté sur la valeur, aura déjà des tas d'alliances internationales. Il ne pourra pas y arriver sans qu'il ait noué plein d'alliances internationales. Je prends l'exemple, si nous voulons par exemple étendre le salaire à vie à partir des prémices qui existent aujourd'hui dans la fonction publique, dans la retraite, dans le statut d'intermittent, choses comme ça, qui est attaqué évidemment par l'Union européenne en particulier, mais par nos gouvernants aussi, bien sûr. N'espérons pas arriver à le faire si nous ne nouons pas des liens avec les Belges qui aujourd'hui sont confrontés à une grave mise en cause de l'amélioration du chômage en Belgique. Si nous voulons aller vers la gratuité du logement, nous n'y arriverons pas si nous ne sommes pas solidaires des Néerlandais ou des Suédois qui aujourd'hui se battent contre l'Union européenne qui dit que les logements sociaux doivent être qui échappent au marché en quelque sorte du logement. Ces logements sociaux doivent être réservés aux pauvres, alors que ces pays-là ont développé une socialisation de l'offre de logement très supérieure à la nôtre. S'ils sont battus, nous ne pourrons pas progresser. Donc je pense que c'est une question un peu abstraite, l'idée, est-ce qu'on peut faire international? Mais on ne peut pas faire tout seul. On ne peut faire qu'à partir d'une dynamique populaire qui ne peut être que nationale, un. Deux, mais un peuple n'aura cette dynamique que s'il a pris l'habitude d'une pratique de solidarité internationale constante. C'est pour ça que c'est long, hein. Moi, je ne dis pas que demain, nous allons parvenir à la copropriété d'usage des entreprises par leurs salariés. Mais il est clair que si, par exemple, nous arrivons à une loi qui ne sera pas l'objet d'un processus législatif après élection, hein, une loi qui sera imposée par une dynamique populaire qui imposera une nouvelle constituante, etc., comme on a fait en 1945, bien sûr, hein, comme on fait toujours, de toute façon. Le processus électoral en tant que tel ne génère aucune loi de dimension révolutionnaire. Mais supposez donc qu'on ait une loi qui dise que les salariés doivent être propriétaires de l'outil de travail. Bon, il est clair que cette loi n'a aucun sens si ces salariés sont incapables de nouer des accords internationaux dans la division internationale du travail. Il y a une division internationale du travail qui n'est pas simplement le fruit des folies capitalistes. Bon, ça c'est vrai qu'il y a une division internationale qui est absurde parce que les matières premières, tous les ingrédients, tous les intrants d'un produit font comme ça 3-4 fois le tour du monde, alors que c'est totalement inutile. Mais cela dit, il y a des divisions sociales du travail qui sont absolument incontestables et nécessaires. Si on est copropriétaire d'usage de l'entreprise, mais qu'on n'a plus ni fournisseurs ni clients, je ne vois pas très bien comment ça sera viable. Donc, encore une fois, seules des solidarités internationales constantes permettront de construire par ailleurs une dynamique nationale qui est pour le moment la seule qui puisse arriver à un changement de mode de production.
D'accord. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose avec laquelle tout le monde serait d'accord ?
Oh, certainement, oui, oui, oui. Je pense que notre liberté au travail aujourd'hui est gravement compromise par le carcan des institutions du capital et que je pense que tout le monde est d'accord pour être libre au travail. Ensuite, il y a ensuite plein de désaccords sans doute sur la façon de le devenir, mais la liberté au travail, la liberté de décider, la liberté de décider des accords internationaux qu'on passe, la liberté de décider de ce qu'on investit, la liberté de décider du collectif, la liberté dans lequel on est, la liberté de faire ce que l'on a, ce que l'on désire faire, la liberté de le faire dans la façon dont on a envie de le faire, tout ça me paraît être une liberté absolument décisive sur laquelle tout le monde peut se mettre d'accord.
Est-il important d'augmenter le PIB ?
Ah non, pas du tout. Ce qui est important, c'est de changer la définition de la valeur. Le PIB mesure, c'est un outil extrêmement utile de ce point de vue-là, il mesure ce que l'on entend par valeur, hein, à un moment donné, et il mesure donc les contradictions de la valeur. Aujourd'hui, le PIB, les 2000 milliards, mesurent à la fois la valeur capitaliste, celle qui génère du salaire de marché du travail, disons, et du profit, mais il mesure aussi la valeur non capitaliste produite par les fonctionnaires, les retraités, les chômeurs, les parents, les soignants, qui n'ont ni employeur, ni actionnaire, ni dictature du temps, etc., pour produire. Donc, ce qui importe, ce n'est pas que le gâteau grandisse, ce qui importe, c'est qu'il ne soit plus produit dans le carcan de la pratique capitaliste de la valeur.
Quel livre conseillez-vous, livre d'économie ?
Ah ben, le seul livre utile à lire, c'est Le Capital. Hein. C'est clair que... pourquoi ? Parce que, il nous fait entrer dans une démarche qui envoie au plot ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie. L'économie repose sur des catégories d'analyse ahistoriques, jamais interrogées sur leur pertinence. Il y a le producteur, le consommateur, le marché, que sais-je encore, enfin des catégories comme ça qui se baladent dans le ciel des idées. Donc, Marx historicise toutes les catégories d'analyse et il le fait, il n'est pas le seul bien sûr, mais enfin, il le fait de façon sur une ampleur inégalée et avec une force intellectuelle remarquable. Et puis, il pense la contradiction, et nous avons absolument besoin de penser la contradiction, puisque aujourd'hui, ce qui est à la mode, c'est de penser la domination. Et Marx, il nous aide à penser la contradiction, c'est-à-dire qu'il ouvre des possibles en permanence.
Êtes-vous pour un enseignement pluridisciplinaire de l'économie ?
Alors, l'économie, encore une fois, est une des sciences sociales. Hein. La folie des économistes académiques que j'ai fui, c'est précisément d'avoir prétendu faire une science économique débarrassé des scories de l'histoire de la sociologie et que sais-je encore. Non, l'économie est une discipline qui n'a de sens que dans ses liens avec la sociologie, l'histoire, le droit, Et donc je suis bien sûr pour un enseignement le plus ouvert possible à d'autres disciplines de l'économie.
Alors, comment s'organise votre journée type ?
Alors, ma journée type consiste à bénéficier déjà de tout le travail de la nuit, donc à ne pas ouvrir la radio surtout avant 9h du matin. Puis, c'est pas avant 9h, pourquoi 9h ? Parce que le 7-9, c'est quand même le grand moment de la propagande, donc c'est fort important d'y échapper. Mais aussi parce que le silence est nécessaire pour récupérer tout le travail de la nuit. Donc le silence du matin, le fait de ne pas trop s'intéresser à ce qui se passe, d'être le plus possible concentré sur la maturation qu'a apporté la nuit à toutes les questions agitées la veille. Donc ça, un premier temps. Peut-être aussi parce que je suis surtout utilisable en début de journée et que, sûr que la journée avance, je suis de moins en moins efficient. C'est possible. Donc je crois beaucoup au début de journée, au début de journée consacré à l'essentiel de ce qu'on a à faire. Et surtout pas se disperser dans le divertissement d'apprendre les nouvelles, d'écouter de la musique ou que sais-je encore. Voilà. J'ai pas grand chose à dire d'autre que ça sur l'usage de mon temps, à vrai dire.
D'accord. Alors, quel est le travail le plus intéressant que vous avez fait ?
Le travail le plus intéressant que j'ai fait, je pense, c'est d'accompagner les doctorants, je pense. C'est là qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on confronte pendant plusieurs années son travail à celui de quelqu'un qui a plein de qualités, beaucoup d'ailleurs de qualités qu'on n'a pas soi-même, donc c'est le moment le plus passionnant sans doute du métier. Je crois aussi beaucoup j'ai beaucoup appris, disons, de l'interaction entre le moment de la recherche et le moment de l'exposé de la recherche, parce que l'exposé de la recherche à un public d'étudiants ou un public de militants aussi, parce que j'ai été, et je suis là, maintenant que je suis retraité, beaucoup confronté à des publics militants, avec l'obligation d'être clair, d'être réactif, qui fait qu'on bénéficie aussi des interrogations, des objections des autres. Enfin, plein de mes hypothèses sont venues pendant les cours, en réalité. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance à tous ces publics qui m'ont aidé à avancer dans ma recherche à travers la tentative de l'exposer de façon... de façon compréhensible. Le travail qui me paraît très important, c'est par archive, par entretien, par analyse de documents divers et variés, de se confronter à la critique sociale du capital. Enfin, la critique intellectuelle qu'on fait comme chercheur, Elle n'a de sens qu'enrichie par la critique sociale.
Qu'est-ce que vous appelez la critique sociale ?
La critique sociale, c'est la construction par les syndicalistes, par les partis communistes, par des gens divers de la sécurité sociale. C'est la construction du statut de la fonction publique. Tout ça, c'est pas une, je sais pas quoi, c'est pas la classe dirigeante qui le produit. C'est la lutte de classe qui le produit. Et un chercheur qui chercherait à comprendre la dynamique de la société sans interroger la critique sociale, sa critique serait bien pauvre. Donc tout ce qui me permet, encore une fois, selon des méthodes de travail qui peuvent être diverses, tout ce qui me permet d'analyser, de me confronter à des initiatives populaires, me paraît le plus important.
D'accord. Alors, dernière question que je pose à tous les invités, et ça va nous permettre d'enchaîner sur la suite. Si vous deviez voter pour ou contre le revenu de base?
Ah, je voterai contre. Je voterai contre pour la raison que le revenu de base, c'est le type même de la fausse bonne idée. Je suis pour le salaire à vie, de 18 ans à la mort. Le salaire, c'est ce qui reconnaît que nous sommes des êtres créatifs, que nous sommes des êtres qui produisent notre espèce en produisant le monde dans lequel nous vivons par négociation avec la nature. Nous ne sommes pas des êtres de besoin qui avons droit à du revenu. Je combats précisément le terme même de revenu, dont le champ lexical est double. C'est le revenu d'être de besoin. Voilà. Et donc, ma foi, il faut bien donner à tout le monde de quoi vivre. Moi, je trouve ça scandaleux. Je n'ai pas besoin de revenus comme être de besoin. J'ai besoin d'un salaire qui reconnaît que je contribue à la production de valeur économique. Et le deuxième champ lexical du revenu, c'est le revenu d'un patrimoine. Alors, à la naissance, je bénéficierai du patrimoine de l'humanité, j'aurai un droit de tirage sur ça. Nous sommes là dans des institutions totalement capitalistes, un tir à revenu d'un patrimoine, me fut-il collectif. Donc, qu'il s'agisse de l'être de besoin, ce que le capital décide de nous, il nous réduit à des êtres de besoin, il nie que nous soyons les producteurs, il dit que nous avons droit à du pouvoir d'achat, c'est toute la part qu'il nous laisse. Ça, c'est le revenu lié aux besoins. Ou que nous ayons un droit de tirage sur le patrimoine de l'humanité, ça, c'est le revenu en tant que revenu du patrimoine. Nous sommes dans des institutions du capital, le revenu de base ne nous fait pas sortir du tout de la logique du capital.
C'est pas une réforme, une petite avancée sociale avant un changement plus grand d'ampleur?
Non, parce que les pas de côté ne sont pas des pas en avant. Non, parce que les pas de côté ne sont pas.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le salaire à vie? Vous en avez déjà parlé, vous avez déjà évoqué son organisation dans les réponses précédentes. Est-ce que vous pourriez résumer?
Le salaire à vie, il est inséparable de la copropriété d'usage des entreprises, parce que il faut marcher sur deux pieds.
C'est que les travailleurs, les salariés, décident ce qu'ils font et ne tirent pas des revenus de la propriété lucrative, c'est ça?
Absolument. Le cœur du capitalisme, c'est que les propriétaires de l'outil de travail en tirent un revenu. Non pas parce que le patrimoine générerait du revenu, ça n'a aucun sens bien sûr, parce que seul le travail vivant génère de la valeur, mais en mettant dessus cet outil des salariés dont ils vont prendre une partie de la valeur qu'ils créent dans un échange que Marx a parfaitement analysé, dans une analyse qui reste toujours parfaitement valable. Donc la copropriété d'usage, c'est le fait que, comme tout propriétaire, la propriété c'est la condition de la responsabilité, il faut que nous soyons vraiment tous propriétaires des entreprises, on décide de l'investissement, on décide des accords internationaux, on décide de la hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie dans tout travail collectif, il y a forcément une hiérarchie, on décide de la façon de travailler, on décide bien sûr de l'objet de travail, on décide du collectif de travail, des embauches, etc. Bon, tout cela est donc l'objet d'une délibération collective sous des formes. Moi, je ne connais rien en sciences politiques, donc je n'ai pas de proposition à faire là-dessus, mais la copropriété par les salariés, pas que par les salariés d'ailleurs, parce que bien sûr que les 150 000 salariés de la SNCF doivent être copropriétaires, mais il n'y a pas que, parce que la SNCF s'engage de l'aménagement du territoire, des choix énergétiques, et il faut donc qu'il y ait d'autres parties prenantes. Alors, ça dépend du type d'entreprise. Les parties prenantes d'une boucherie du quartier, au-delà des trois copropriétaires d'usage de la boucherie, peut-être un élu, parce qu'il y a des questions d'aménagement du territoire, enfin d'urbanisme. Mais là, en revanche, ça peut être donc pour l'essentiel les seuls salariés impliqués dans la vie de cette entreprise, mais pour d'autres, il peut y avoir des usagers, des fournisseurs, des clients, des élus, enfin, qui soient copropriétaires d'usage et qui donc participent à la décision. Alors, d'usage, qu'est-ce que ça veut dire ? D'usage, ça veut dire qu'on ne tire aucun revenu de cette copropriété. C'est un usage, on entre dans l'entreprise, le fait d'y entrer fait que l'on devient co-décideur de tout ce que je viens d'évoquer. Et puis quand on quitte l'entreprise sans tirer aucun revenu d'y avoir participé.
Est-ce que ça veut dire que le salaire qu'on touche pendant qu'on est dans l'entreprise est sans rapport avec les bénéfices ou le déficit que l'entreprise fait ?
Ah oui, alors ça c'est aussi alors, un autre élément fondamental. Le propre du capitalisme, c'est cette allocation microéconomique de la valeur.
On s'en fiche que l'entreprise soit en déficit ou en bénéfice.
Alors, on ne s'en fiche pas à l'échelle macro. Si toute l'entreprise est en déficit, ce serait quand même bien ennuyeux parce qu'il n'y aurait pas de valeur ajoutée. Mais bien sûr, hein, qu'il s'agit de déconnecter. Mais encore une fois, ce que je dis là, ce n'est jamais que la poursuite de quelque chose qui existe déjà. Hein, 45% du salaire. Ne va pas de l'employeur vers le salarié. Ce n'est pas l'employeur qui paye le salarié, il le verse à une caisse. Donc il s'agit de déconnecter complètement, mais là ça va plus loin que l'existant, le chiffre d'affaires de l'entreprise des salaires versés par l'entreprise. L'entreprise ne verse pas de salaire. Sa valeur ajoutée va être répartie en cotisation. Si on veut un salaire à vie en moyenne, mettons, de 25 000 euros par mois, dans la fourchette des 1506 000 euros, de 25 000 euros par an, 25 000 euros net par an, donc 2000, 2100, 2200 euros par mois, dans une fourchette 1506 000 déjà évoquée, si on veut un salaire à vie pour, comme droit du sol pour tous les résidents de plus de 18 ans en France, ça fait 50 millions de personnes. Fois 25 000, ça fait 1250 milliards, 60% du PIB. Ce qu'on consacre déjà au salaire, de toute façon. Hein, c'est pas, j'ai pris ce chiffre de 2100 pour rentrer dans les clous actuels. Hein. Ce salaire à vie, il est garanti pour autant qu'il ne dépend pas de la bonne ou mauvaise santé d'une entreprise. C'est la mutualisation des valeurs ajoutées. Les entreprises mutualisent dans une cotisation salaire 60% de leur valeur ajoutée. Ça génère 1200 milliards dans les caisses qui, elles, vont verser les salaires à vie. Il y a une déconnexion complète, effectivement, entre l'entreprise et le salaire.
Est-ce qu'une entreprise peut virer des salariés ?
C'est une question ouverte. De mon point de vue, oui. Hein, dès lors qu'on entre dans l'entreprise avec un contrat de travail qui ne définit pas le salaire, puisque le salaire, il est lié à la personne. La personne, elle est titulaire de son salaire. Elle a un niveau de qualification qui est reconnu par des épreuves. Non, le premier niveau, il est automatiquement attribué à 18 ans à tout le monde. C'est l'entrée dans la citoyenneté par ce premier niveau de qualification. Puis ensuite, on passe des épreuves pour passer de 1500 euros à 2000, 2005. Enfin bref... augmenter en niveau de qualification et en salaire. Ce niveau de qualification est donc se traduit par un salaire qui ne dépend pas du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce n'est pas sur le chiffre d'affaires enfin, qui ne dépend pas de la valeur ajoutée. C'est pas sur la valeur ajoutée de l'entreprise qu'on se paye. C'est sur la mutualisation à l'échelle nationale. Mais j'avais oublié la question que vous m'aviez posée.
Oui, c'est ce qu'on peut virer.
Ah oui, virer. Ah oui, c'est ça. Non, c'était ça, voilà. Donc, on entre dans l'entreprise avec un contrat qui précise, pas le salaire puisque ça dépend de la personne, mais qui précise, je ne sais pas quoi, moi, la durée de présence dans l'entreprise, un certain nombre de tâches, etc. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de sanction si on ne fait pas l'affaire. Hein. Alors, est-ce que la sanction, ça peut aller jusqu'au licenciement ? Oui, peut-être, si vraiment on perturbe entièrement un collectif de travail.
Si l'entreprise ne vend plus, si l'entreprise décide de réduire sa taille, de fermer.
Ah ben oui, bien sûr. Donc, les personnes, du coup, le collectif se dissout. Encore une fois, aussi bien le licenciement que la dissolution d'un collectif ça n'affecte pas la qualification et le salaire des personnes, hein, puisqu'elles sont liées. Mais en revanche, il va bien falloir qu'elles trouvent un autre endroit ou qu'elles initient un autre collectif pour pouvoir faire ce dont nous avons tous envie, c'est-à-dire produire des valeurs d'usage, exercer un travail concret, être reconnu à cette occasion comme producteur de valeurs économiques.
Alors, comment ça se fait qu'on puisse augmenter son salaire à vie, mais pas le voir baisser ?
Parce que le salaire n'est pas... C'est un droit politique, le salaire. De même qu'on ne se voit pas refuser, retirer son droit de vote. Il faut vraiment avoir commis d'énormes infractions pour pouvoir...
On peut se voir retirer, en tout cas, on devrait pouvoir se faire retirer son droit d'être élu, par exemple. Donc...
Oui.
Comme le salaire
oui.
est lié à la qualification, si on devient moins qualifié ou si on devient trop flemmard ou je ne sais pas quelle autre raison, pourquoi est-ce que...
Non, oui, vraiment, il y a peut-être des cas qu'il faudrait examiner en justice, quelques cas rares, mais ce serait extrêmement dangereux, hein, parce qu'alors la menace de se voir baisser en salaire permettrait à tous les petits chefs d'exercer la terreur sur qu'ils pourraient menacer de perdre de salaire. Non, en aucun cas, enfin de diminution de salaire, en aucun cas. La diminution de salaire de faire partie de la panoplie.
Mais du coup, si. Imaginons que j'ai gravi tous les échelons.
Oui.
Je suis à 6 000 euros par mois.
Oui.
Et j'ai 40 ans.
Oui.
Là, je décide de prendre ma retraite. Est-ce que. Et puis de plus rien faire. C'est-à-dire, vraiment, je passe mon temps à aller au cinéma et à la plage. Est-ce que c'est normal de continuer à payer 6 000 euros par mois?
Oui, ça ne me dérange pas. Ceux qui seront à 40 ans, 6 000 euros par mois, sont extrêmement peu nombreux, de toute façon. Hein, n'allons pas...
On peut s'arrêter à 1500. En fait.
Mais à 1500, d'accord. Les gens qui font rien ne me dérangent pas, beaucoup moins que beaucoup qui font aujourd'hui, hein, qui sont quand même extrêmement dangereux. Les journalistes du 6-9, mais enfin, il y en a bien d'autres, hein, il n'y a pas que. Moi, ça me paraît vraiment un cas d'école, cette affaire, parce que nous aimons travailler. Le travail fait partie de notre composante. Il y a une valeur anthropologique du travail qui est évident. On sombre dans la folie à ne pas travailler. Donc, des gens qui auraient une attitude de pure consommation permanente, il faudrait vraiment qu'ils fassent un très gros effort d'ailleurs pour ne faire que de consommer sans jamais rien produire. Non, moi je ne crois pas du tout à ce cas d'espèce, enfin à cette généralisation de la culture du hamac, ça me paraît absurde. Au contraire, je pense que nous allons libérer le travail en le libérant du carcan capitaliste. Le nombre de trentenaires qui aujourd'hui sont sous-utilisés parce qu'ils sont victimes du marché du travail, parce qu'ils maquillent leur diplôme pour avoir un job, enfin c'est infini. Enfin non, il y a une sous-utilisation des gens, ceux qui vont au boulot en traînant les pieds parce qu'ils n'y décident de rien, ceux qui voient leurs suggestions, leurs propositions, les ingénieurs qui voient leurs propositions retapées, retoquées parce que la rentabilité financière des actionnaires n'y retrouve pas son compte, alors qu'ils ont produit un nouveau processus de... je sais pas quoi, un nouveau modèle, enfin, etc., un nouveau logiciel parfaitement performant, tout ça qui n'est pas mis en œuvre parce que ça, la rentabilité financière des actionnaires ne n'est pas suffisante. Non, on va libérer le travail, au contraire.
Et... Est-ce que je suis aussi étonné que le salaire se fonde sur la qualification, qu'on puisse éviter le problème de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que si jamais il y a un travail que personne ne veut faire, comment est-ce qu'on résout le problème, si ce n'est par une élévation du salaire proposé?
Non, parce que je suis... Non, moi, je... Non, non. Oui, mais donc oui, parce qu'il y a la, il y a le fouet du marché du travail, le fait qu'on est à poil sur le marché du travail. Et donc si on n'accepte pas ces métiers-là mal payés, on se retrouve dans la misère. Donc là, cette situation ne va plus exister dès lors que chacun aura un salaire à vie. Alors, est-ce que ça va entraîner la désaffection d'un certain nombre de métiers? Bon, il y a des métiers, de toute façon, dont il est souhaitable qu'il y ait des affections. Qu'on n'ait plus de candidats pour nettoyer des cuves extrêmement dangereuses pour la santé, ça nous obligera à réexaminer nos procédés de travail. Et ce sera d'autant mieux. Bon, donc il y aura des effets bénéfiques dans ces refus. Ne sous-estimons pas de façon un peu ethnocentrique l'intérêt pour le travail que nous estimons, nous, peu qualifiant, de gens qui sont heureux de le faire et qui ne sont pas contents en revanche du salaire lié à ce travail, je sais pas, des horaires qu'on leur impose, etc. Mais ne confondons pas travail et emploi, hein. On peut aimer son travail tout en détestant son emploi. Et non, c'est pas mais, il y aura évidemment des tâches qui trouveront peu preneur parce qu'elles sont la nuit, parce que est nécessaire. Encore une fois, tout ce qui n'est pas nécessaire, nous le supprimerons ou nous l'automatiserons. Hein. Mais ce qui est nécessaire tout en posant des problèmes pour la santé ou tout en étant peu gratifiant, nous pourrons très bien pousser à ce que ces métiers soient assumés, ces tâches soient assumées. En qualifiant plus vite, hein, en faisant monter plus vite en qualification ceux qui consacrent une partie, pas forcément la totalité, hein, à partir du moment où le salaire est une partie de leur temps, hein, à des tâches peu qualifiantes ou peu gratifiantes. Encore une fois, n'oublions pas que nous allons, avec le salaire attaché à la personne, rendre beaucoup plus fluides les trajectoires individuelles. On va pouvoir, aujourd'hui, on est complètement cadenassé par des emplois à telle heure, etc., etc. À partir du moment où on se balade avec son salaire, on va pouvoir organiser nos temps, alors non pas comme nous voulons, hein, parce que le travail étant collectif, il faudra bien que nous répondions aux attentes du collectif dans lequel nous allons inscrire notre travail, bien sûr. Et encore une fois, j'ai évoqué la possibilité de licenciement. Donc ce ne sera pas le chacun fait ce qu'il veut. Mais nous allons pouvoir arbitrer nos temps, hein, de façon beaucoup plus souple, hein, qu'aujourd'hui. En particulier être présent auprès de nos jeunes enfants, par exemple, ou de nos adolescents. Enfin, aujourd'hui, il y a une insuffisante présence des parents dans ces situations-là, et c'est tout à fait dommageable pour le développement des personnes. Et donc, nous allons pouvoir, par exemple, parce qu'on sait qu'à la clé, ça permettra une montée en qualification plus rapide, affecter une partie de notre temps à une tâche. À une tâche pénible ou peu qualifiante, peu gratifiante, j'y reviens plutôt, parce qu'elle sera plutôt qualifiante au contraire, puisqu'on pourra monter plus vite en qualification. La montée en qualification se fera par des jurys qui vont apprécier, évaluer ce qui a été fait dans les 5-10 années précédentes. Bon. Et si on peut faire valoir qu'on a fait tel travail peu demandé, eh bien on pourra monter en qualification plus vite. Voilà quelque chose qui permet de ne pas lier la qualification au contenu de ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est pour moi fondamental. Il faut comme ça dénouer le lien entre qualification et mesure de ce qui est en train de se faire. Ça, c'est un lien absolument mortifère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun lien entre la qualification et donc le niveau de salaire et l'évaluation de ce que l'on a fait. Hein. Non pas ce que l'on est en train de faire, ça, non.
Alors, ce serait évalué par qui? Ce serait évalué par nos collègues qui sont les plus habilités, enfin, les plus au courant de nos qualités? Ou est-ce que ce serait évalué par des gens plus neutres, qui sont plus extérieurs?
Moi, a priori, je trancherais pour la seconde solution parce que je crains que sinon ça entraîne des copinages, des relations de clientélisme, enfin, etc., etc., si les jurys sont faits par des gens que l'on connaît, et donc, du coup, qui ont une prise sur nous. S'il y a une forme d'anonymat, d'extériorité, ça me paraît plutôt meilleur. Bon, mais cela dit, tout ça est ouvert.
Et donc, si je comprends, le niveau de qualification maximale serait fait de telle sorte qu'il serait la possession d'une carrière pour inciter les gens à chercher une meilleure qualification.
C'est pas
en faisant 5 ans d'études qu'on arriverait à 4500 euros direct en.
Ah ben sûrement pas, hein, puisqu'on démarre de toute façon, à 1500 euros. Le premier niveau de qualification, il est attribué automatiquement à 18 ans. Et ça, c'est fondamental, qu'il n'y ait pas de lien entre, je ne sais pas quoi, la méritocratie scolaire et le premier niveau de qualification, parce que l'école est ce qu'elle est, et que le jugement qu'elle porte sur les personnes et la réussite des personnes ne légitime pas un fondement légitime à une différence des qualifications. Alors, l'existence d'une hiérarchie des salaires, ce n'est pas d'abord pour inciter les gens à progresser, c'est d'abord pour gérer la violence des rapports sociaux dans la production. C'est quand même d'abord ça.
Comment ça?
Ben, c'est que la valeur, le salaire, c'est une question de valeur économique, ce n'est pas une question de valeur d'usage. Hein. Quand on produit parce qu'on aime. On aime résoudre des équations, on aime couvrir un toit. Enfin, je cherche des exemples divers et variés. Enfin, montrer, on aime produire de l'agriculture, etc. Bon.
Pour les auditeurs, ce que vous appelez valeur économique, c'est ce qui est monétisé. Alors, ce que vous appelez valeur d'usage,
c'est la production de richesse. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait en permanence. Notre vie éveillée, sauf des moments de stricte consommation. Ou d'activité purement physiologique, notre vie éveillée est vouée à la production de valeurs d'usage et à du travail concret en permanence. Ça renvoie à autre chose, ça renvoie à la valeur économique, c'est-à-dire à la partie de la production qui n'est pas le consensus de la transparence des valeurs d'usage. La production, c'est pas seulement produire des valeurs d'usage, c'est aussi le faire dans des rapports de pouvoir qui reposent sur la définition de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas dans ce qu'on produit. On ne se contente pas de produire des valeurs d'usage, on décide aussi de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas dans les valeurs d'usage.
Exemple,
la valeur économique.
Pour l'industrie, pour le public, par exemple, ce qu'on considère, ce que la société actuelle considère qu'il ne vaut pas, c'est les enfants ou tout le travail domestique.
C'est la seconde journée des femmes. Ça ne vaut pas. C'est pourtant bien une production de richesse. Donc, la production, c'est pas simplement le fait de se mettre d'accord sur des valeurs d'usage, c'est aussi d'assumer la violence des rapports de pouvoir dans l'évaluation de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas dans ces valeurs d'usage. Et dire qu'on va supprimer la monnaie, on va supprimer l'évaluation, c'est absurde. Toutes les sociétés évaluent ce qui vaut et ce qui ne vaut pas. Et la question, c'est d'euphémiser la violence liée à cette évaluation. Dans le capitalisme, l'évaluation, elle est une violence complète, hein, c'est-à-dire, c'est déjà de l'euphémisation de la violence que connaît une société non capitaliste dans laquelle c'est la différence des statuts sociaux qui décide de ce que je fais vaut ou ne vaut pas. Hein, et je suis inscrit dans un destin indépassable par ma naissance, parce que je suis d'une caste inférieure, je suis esclave, je suis serf, je suis paysan, et je ne suis pas prêtre, je ne suis pas de caste supérieure, je ne suis pas homme libre, etc., etc. Bon, je ne suis pas seigneur. Le capitalisme, lui, il supprime toutes ces différences de statuts sociaux, il proclame l'égalité juridique des personnes, c'est un très grand progrès, mais il le fait en déplaçant la violence économique ailleurs, dans le marché du travail, dans la propriété lucrative et dans toutes les violences liées à la mesure de la valeur par le temps, le crédit, enfin tout ce qu'on a pu évoquer. Lorsque nous allons dans le salaire à vie, dans la copropriété d'usage, dans la mesure de la valeur par la qualification des personnes, dans la suppression du crédit et son remplacement par la cotisation économique, quand on va éliminer la violence de la pratique capitaliste de la valeur, on n'éliminera pas la violence de la pratique de la valeur. La pratique de la valeur, c'est justement la gestion de la violence des rapports de production. Et la hiérarchie des salaires va être l'institution qui va nous permettre de gérer politiquement cette violence, parce qu'on va se mettre en conflit permanent et irréductible sur l'écart, l'échelle de la hiérarchie, sur les critères, sur les jurys, sur...
Est-ce qu'on supprimerait pas cette violence si on disait 3 millions pour tout le monde ?
Mais non, parce que précisément, il n'y aurait plus de lieu pour exprimer cette violence. Du coup, ce sera, je ne sais pas quoi, il y aura des gourous, ce sera des charismes, il y aura la domination masculine, il y aura des tas d'autres choses qui vont être l'expression de la violence. Et ce ne sera pas mieux, ce sera pire, à mon sens.
Vous avez un peu répondu, mais je repose quand même la question, quel processus démocratique définira les salaires, enfin, de façon équivalente, les qualifications ? Comment
ça sera défini ? On ne part pas de zéro, encore une fois. Moi, je ne suis pas un réformateur social qui élabore un système du monde idéal. Ça, je ne crois pas à ce genre de démarche. Je combats les utopies. Je suis un observateur de la sécurité sociale, à partir d'un point de vue économique, pour l'essentiel. Et donc, il y en a d'autres, hein, bien sûr, hein, mais... Je ne suis pas complètement inculte sur le reste, mais enfin bon, j'ai un point de vue assez limité. Hein, et à partir de cette observation, je tire des possibles. Si on pousse plus loin les prémices du salaire à vie, si on pousse plus loin les prémices de la propriété d'usage, si on pousse plus loin les prémices de la création monétaire sans crédit, que nous connaissons déjà, parce que 1945, c'est une date, certes une date emblématique d'un mouvement plus long, hein, qui démarre, moi je l'ai analysé entre 1920 et 1980, mais il démarre avant 1920, bien sûr. En 1945, encore une fois, date emblématique, commence à se mettre en place des institutions antagoniques, des institutions du capital, toujours menacées, bien sûr. Mais du coup, on a déjà pour, par exemple, mesurer la qualification dans une logique de salaire à vie, vous avez déjà les procédures. Moi, je connais celle de l'université, mais il y en a bien d'autres dans d'autres domaines. À l'université, vous avez... Des élus qui examinent des dossiers et qui vont qualifier ou non, enfin inscrire sur la liste de qualification ou non les candidats en utilisant des critères qui ont été l'objet de tout un débat démocratique dans la profession. La participation à la vie des établissements, le fait qu'on soit impliqué ou pas, ou qu'on soit toujours resté sur son aventin, les enseignements qu'on a faits et les recherches qu'on a menées. Bon, on s'est mis d'accord sur le fait que examiner ces trois éléments et les critères d'examen, etc. Donc on ne part pas de zéro. S'agissant de la qualification, non pas des personnes, mais des postes dans les conventions collectives, on a élaboré toute une série de critères de pour voir quels sont à quel niveau de qualification on peut inscrire tel poste. Ces critères qu'on utilise pour qualifier des postes, on peut très bien les utiliser pour qualifier des personnes.
Hein. Donc ça serait au niveau de l'entreprise la qualification ?
Encore une fois, moi je me méfie de jurys qui seraient des jurys constitués par des gens que le candidat connaît et qui connaissent le candidat, ouais, parce que...
Quand vous dites... enfin, dans ce cas-là, au niveau du secteur d'activité?
Oui, ben, on a par exemple, prenons quelque chose qui ne qualifie pas, mais qui certifie hors scolaire. Ce qu'on appelle la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Bon, mettons un coiffeur qui passe une validation des acquis de l'expérience. Bon, ben, ça va être la chambre des métiers, quelqu'un de la chambre des métiers, puis d'autres personnes qui vont faire un jury, qui vont lui demander de faire une coiffure, qui vont lui demander un dossier dans lequel il montre tout ce qu'il a fait depuis qu'il est entré dans la coiffure, les salons par lesquels il est passé, les tâches qu'il a accomplies, des questions qu'ils vont poser sur sa maîtrise de, je sais pas quoi, de la chimie des matériaux qu'il utilise pour voir s'il ne fait pas de conneries quand il utilise tel ou tel produit, des éléments de gestion pour qu'il puisse gérer un salon sans être la proie de gens qui vont lui faire des entourloupes parce qu'il n'y connaît rien quant à privé ou je sais pas quoi. Bon voilà, bon bah, là on a aussi des critères, on a des procédures, tout ça quand même existe déjà. C'est pas, encore une fois, il ne s'agit pas de chercher midi à 14h, il s'agit de le généraliser au service de la qualification des personnes et de la propriété d'usage des entreprises. Le projet, il est assez simple. Les institutions existent déjà pour une large part.
D'accord. Je n'ai plus vraiment de questions en tête. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Ben, encore une fois, moi, l'originalité de mon travail, c'est de dire qu'il y a un déjà là. Hein. Vous avez des travaux qui disent, mais qui postulent que l'on peut sortir le travail du carcan capitaliste. Sauf que leur crédibilité est quand même relativement faible, puisqu'ils ne montrent pas qu'on en est déjà sorti partiellement. C'est quoi ce postulat qu'on peut en sortir si, alors que depuis deux siècles, il y a une mobilisation, c'est là que je parle de critique sociale, hein, que depuis deux siècles, il y a une mobilisation à travers les syndicats, les partis politiques, des associations, des mutuelles, en fait. Il y a une mobilisation populaire pour s'émanciper du carcan capitaliste du travail. Moi, l'originalité de mon travail, je crois qu'il n'y a guère que ça à laquelle je tiens, vraiment. C'est de dire qu'on a commencé déjà cette émancipation et que le statut de la fonction publique, la cotisation salaire, l'introduction de la qualification, etc., tout ça, c'est la démocratie sociale qui a présidé à la gestion du régime général par les salariés eux-mêmes qui élisaient leurs directeurs de caisse, pendant 15 ans, entre 45 et 60. Tout ça montre que nous avons déjà les tremplins pour aller plus loin. Je n'annonce pas, ou je n'attends pas le Messie, je n'annonce pas un possible changement. J'observe un changement déjà là, qui est porteur de changements plus grands possibles.
D'accord, merci beaucoup.
Merci.
Alors, pour le traditionnel triptyque de fin, cette statistique de l'INSEE, en 2012, le revenu moyen du dernier décile français, de son niveau de vie par mois, donc c'est-à-dire les 10 Français les plus pauvres, c'est 665 € par mois. Il a baissé depuis 2009, où il était à 696, alors que le niveau de vie moyen des 10% les plus riches est à 4870 € par mois, lui en constante augmentation. Le rapport entre ces deux valeurs est donc passé de 6,7 en 2009 à 7,3 en 2012. La référence que je vais donner aujourd'hui, c'est le site revolution-fiscal.fr où on peut comprendre le système socio-fiscal français et lire une proposition de réforme formulée par Piketty, Landais et Saez. C'est à la fois concis et très intéressant. Enfin, je terminerai sur une citation de Karl Marx dans le Manifeste du Parti communiste. La condition essentielle d'existence et de suprématie pour la classe bourgeoise est l'accumulation de la richesse dans des mains privées, la formation et l'accroissement du capital. La condition du capital est le salariat. Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. Merci, et à la prochaine fois.